Alors, devant moi est Nora Rivière, qui est chorégraphe, danseuse, écrivaine, audio-descriptrice en chef et chercheuse chez Danse Cité. C'est presque un exercice de diction. Bonjour, Nora Rivière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler de l'audio-description en danse. Mais d'abord et avant tout, depuis quand vous vous intéressez à la danse?
Depuis toute petite. Disons que j'ai commencé à pratiquer toute petite. Donc là, je dirais que c'était un intérêt lié au plaisir du mouvement, mais m'intéressait vraiment de façon plus, on va dire, réflexive. C'est arrivé il y a quand même déjà 25 ans via l'université.
Et vous êtes originaire de la France, vous avez commencé vos études. Qu'est-ce qui vous a attiré au Québec? Pourquoi vous avez décidé de venir vivre ici?
Ça, c'est toujours une grosse question.
Indiscrète?
Non, pas forcément, non. Mais il y a tellement de paramètres qui se combinent. Moi, j'ai décidé de changer de territoire tard dans ma vie, vraiment. J'avais 40 ans quand je suis venue ici, donc c'est vraiment redémarrer une vie professionnelle. Donc, c'est un mélange de plein de choses, mais je dois dire que j'avais... mon premier livre aussi avait pas mal circulé ici auprès de la... petite communauté artistique.
Votre premier livre qui s'intitulait comment?
Obscène, récit fictif d'une vie de danseur. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de danseurs et danseuses qui sont devenus des amis. Et ça, ça a été vraiment un facteur important de rentrer dans la communauté et sentir un intérêt aussi pour le travail. Je me suis sentie comme accueillie, vraiment.
Plus que dans votre pays d'origine?
Pas forcément plus, mais autrement. Et puis, je sais pas, il y a des moments où on a besoin juste de...
Changer d'air.
Ouais, de changer d'air.
Et il y a 10 ans, Enora, vous avez signé vos premiers projets qui ont la particularité d'être tant chorégraphiques que littéraires. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette passion qui vous a mené à décrire, à écrire la pratique de la danse?
Alors plusieurs choses. J'ai commencé quand j'ai écrit ce premier livre qui était aussi accompagné en tout cas, c'est ça, de faire à la fois un projet chorégraphique et un projet littéraire. Je trouvais ça, d'abord j'ai eu vraiment envie d'écrire sur le métier des danseurs et danseuses, depuis le point de vue vraiment de la personne qui y est sur scène, depuis le point de vue des danseurs et danseuses. Parce qu'il y avait vraiment, à l'époque en tout cas, parce que ce livre est sorti en 2013, il y avait vraiment un manque dans les écrits en danse en France. Là, évidemment, je parle du contexte français, mais j'ai senti que c'était le cas aussi ici. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi beaucoup d'échos. Ça venait répondre à un manque, en fait, en termes de littérature sur la danse. Et voilà, et c'était vraiment mon but, en écrivant, c'est d'abord d'essayer de m'adresser à tout le monde. Je pars du principe que tout le monde a un corps qui bouge tous les jours, donc parler de mon métier, j'essaye de faire en sorte que n'importe quel autre métier pourrait y trouver des résonances, ou n'importe quelle autre personne en tant que lectrice puisse trouver vraiment des résonances. Donc j'essaye vraiment à la fois de partager c'est quoi ce métier et de le faire de la façon à la fois exigeante et le plus simple possible pour que ça puisse... parler au plus de monde possible. Ça, c'est toujours
l'objectif,
fantasme de n'importe quelle
rêve,
personne qui, en tout cas, qui produit des choses qui se retrouvent dans l'espace public. Mais ça n'arrive jamais. Mais c'est important d'avoir ça en tête au moment où on crée, évidemment.
Ouais. Ouais, voilà. Mais ce livre-là a eu des échos et a été bien reçu,
absolument,
comme vous le disiez tantôt.
Ouais, vraiment, absolument.
Et vous êtes danseuse, vous êtes chorégraphe, vous écrivez, vous êtes chercheuse, vous travaillez chez Danse Cité, où vous êtes audio-descriptrice en chef. Comment vous décrivez le métier? Pourquoi ça vous fait rire?
Mais parce que le en chef, ça me fait rire. C'est presque une private joke avec mes collègues de Danse Cité. On a juste fallait décider d'un statut, d'un titre, que ce soit sérieux aussi, en tout cas.
Bon.
Mais voilà.
Mais vous êtes quand même audio-descriptrice.
Oui.
Comment vous définissez ce mot, ce métier?
Cette pratique, oui. Alors, waouh. C'est toujours difficile en quelques mots, mais en tout cas, l'objectif de l'audiodescription, c'est de décrire les éléments, en tout cas l'audiodescription en danse, ça va être de décrire les éléments visuels et sensoriels d'une œuvre chorégraphique pour pouvoir le partager, le transmettre, le transmettre vraiment une expérience de spectatrice aux personnes qui vont m'écouter. Donc, voilà, en gros, c'est ça.
C'est ça,
ça, ce serait la définition, on va dire, très générique.
Oui.
Voilà.
Vous avez écrit des textes critiques, vous avez été critique de danse pour le Devoir.
Oui.
Est-ce qu'il y a des ressemblances entre le métier de critique et celui d'audiodescriptrice?
Alors, je dirais que ce qui est super intéressant avec la pratique de l'audiodescription, c'est que ça combine plusieurs points de vue et compétences. C'est-à-dire que j'ai d'abord un travail d'analyse de l'œuvre à faire. Et quand je suis critique...
En amont,
bien sûr.
Avant le spectacle,
je travaille un mois en amont pour préparer mon texte. Donc, c'est vraiment un mélange d'analyse d'œuvre. Mais si je suis critique, j'ai un travail d'analyse d'œuvre aussi qui est à des degrés différents en fonction de la finalité du texte.
Ouais.
Mais il y a toujours une part d'analyse. Donc, je travaille vraiment mon regard de spectatrice. Si je suis critique aussi, c'est ma perception que je viens vraiment activer. Donc, c'est ça vient vraiment combiner plusieurs compétences, mais on va dire que j'allume à des degrés différents pour l'audiodescription, mais je rassemble tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça vient combiner vraiment toutes mes pratiques que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est super riche.
Vous avez une boîte à outils riche.
Ouais.
Et vous allez puiser, vous allez chercher les outils dont vous avez besoin,
ouais,
selon ce que vous faites, selon ce que vous préparez, où vous en êtes rendu dans le processus. Et en quoi se différencie l'audiodescription au cinéma à celle de la danse?
Alors déjà, nous, on est, c'est dans le cadre du spectacle vivant, donc ça se fait en direct.
Ouais.
On est tous et toutes en train de partager la même expérience collective.
Vous êtes où dans la salle?
Moi, je suis en régie, je suis forcément dans un espace fermé parce que personne ne doit m'entendre dans le public, parce que le public est mélangé, évidemment.
Ouais.
Donc voilà, je suis dans une régie fermée, soit ça dépend de la configuration des théâtres, ça peut être vraiment en hauteur. Donc parfois, je peux accéder directement au spectacle en direct visuellement, mais parfois je peux être sous la scène ou dans une pièce connexe. Donc là, j'ai une retransmission, c'est filmé en direct, c'est retransmis sur un écran et moi je suis face à un écran plus mon écran d'ordinateur.
Et quand le mouvement va plus vite que la pensée, comment vous arrivez à décrire en temps réel un spectacle de danse?
Alors déjà, je prépare mon texte,
ouais,
évidemment énormément en amont, et je ne sais pas comment je fais, mais je sais que je dois être la plus précise et la plus concise, puisque je dois trouver le minimum de mots pour exprimer le maximum de choses. Donc, c'est vraiment un travail littéraire, beaucoup, hein, trouver les bons mots pour c'est une sorte de traduction aussi pour pouvoir nommer effectivement ce que je vois.
Mais il faut aussi que vous laissiez de côté, je ne sais pas, l'émotion de la spectatrice. Là, si vous vous emballez sur le spectacle que vous voyez, ça, il ne faut pas que ça transparaît, je ne sais pas.
Il n'y a pas de faux ou faux pas.
Okay.
En fait, je pense que c'est vraiment à chaque personne d'élaborer son attitude. Moi, je parle vraiment d'une attitude en tant qu'audiodescriptrice. C'est pas possible je peux pas objectiver mon expérience.
Ouais.
Pour moi, c'est des discours. Enfin, je veux dire, c'est une réflexion qui a pas de sens. C'est force, ça passe par mon prisme, c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Ça veut pas dire que je vais, bien sûr. Comment dire, faut que je trouve le bon dosage pour laisser suffisamment d'espace à la personne qui m'écoute pour que ça fasse image et qu'elle puisse interpréter à sa manière.
Mm-hmm.
Mais moi, nécessairement, j'ai une petite couche d'interprétation puisque ce sont mes mots.
Ouais.
Mais c'est des questions de dosage, en fait. Et la question du filtre, je l'évacue de plus en plus parce que d'abord, c'est en direct, c'est ma voix et en fonction de comment je module le grain de ma voix, la musicalité, la rythmique, ça va donner de l'information à la personne qui m'écoute. Et à chaque fois, parce qu'après chaque audiodescription, on fait une rencontre avant et après, puis après on parle de l'expérience qui a été vécue. Et tout le monde me dit, mais quand on sent toute ton emballement, ton excitation, ta fragilité, le fait que si tu te sens perdu ou si tout d'un coup tu es dans le contrôle exactement de ce qui se passe, tout ça passe par mon corps, ma voix, et ils le sentent. Et je pense que c'est ce qui permet, c'est une couche supplémentaire pour que les personnes vivent physiquement quelque chose. Parce que c'est ça le but avec une expérience de danse, c'est vraiment qu'il y ait de l'empathie kinesthésique. Là. C'est que les personnes qui m'écoutent puissent vivre physiquement quelque chose comme si elle voyait réellement la, la chose. Donc,
Oui, parce que c'est destiné à des aveugles, à des personnes malvoyantes.
Oui.
Est-ce qu'il y a des commentaires de ces personnes-là qui vous ont aidé dans votre démarche?
Oui. Ben, déjà, le fait de se parler après, ça, ça me renseigne beaucoup sur ce qu'ils et elles auront vécu. De plus en plus, je souhaiterais les impliquer dans le processus, dans la réflexion. C'est ce qu'on on met en place de plus en plus. Donc oui, évidemment, c'est, l'idée, c'est de... Puis c'est, toute la, c'est aussi toute la politique de densité, c'est de faire avec les personnes concernées et de ne pas se désolidariser de la communauté à laquelle on s'adresse. Au contraire, quitte à être dans l'inclusion, autant tout faire ensemble. Enfin, je veux dire, donc le plus possible, on essaie le plus possible. Bien sûr, il y a des limites à tout. Une fois que je suis dans l'écriture, je suis dans ma bulle et puis je cherche toute seule.
Le 8 juin dernier, Nora Rivière, vous avez réalisé l'audio description pour le spectacle de danse Encantado. J'avais d'ailleurs reçu la dramaturge, l'autrice ou la chorégraphe de ce spectacle-là. C'était dans le cadre du FTA, le Festival Transamérique. Comment ça s'est passé?
C'était super.
Oui?
ouais, ça s'est super bien passé. La chorégraphe Lia Rodriguez a accepté de rencontrer les personnes aveugles en biop avant et elle est revenue après avec toute l'équipe artistique et les danseurs et danseuses ont énormément échangé. Bon, il y avait une personne qui traduisait évidemment du brésilien en français, mais c'était de toute beauté là. Lia m'a dit en aparté, elle m'a dit oh, c'est le meilleur public du monde.
Ah, mais ça, ça a dû vous faire plaisir, là. Mission accomplie.
Ouais, ça me donne des frissons rien que d'en reparler.
Et l'audio description n'est pas aussi répandue au Québec qu'en France. Comment vous contribuez au changement? Est-ce que ça change? Parce que vous avez fait une conférence en ligne en juin 2021 et vous avez mentionné que la première audio description en vrai au Québec allait avoir lieu en octobre 2021. Donc, c'est quand même récent.
Oui, c'est tout récent. C'est la deuxième saison qu'on vient de finir. Comment on fait pour changer les choses?
Est-ce qu'il y a plusieurs compagnies de danse qui vous ont montré leur intérêt? Peut-être qu'ils ne sont même pas au courant que ça existe.
Non, c'est ça. C'est que c'est le fait de pouvoir pérenniser... parce que densité, c'est au sein de densité qu'on a décidé de vraiment de développer cette pratique. Donc, on collabore, on propose, on expose en fait c'est quoi l'audiodescription de notre service auprès des diffuseurs et diffuseuses à Montréal, auprès des théâtres. Et ensuite, on parle de coût ensuite parce que c'est un vrai coût conséquent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à pérenniser financièrement, évidemment. Mais c'est ça, c'est le fait de pouvoir communiquer avec toute l'écologie du milieu, en fait, autant les artistes que les directeurs et directrices de théâtre, que les personnes, le public aveugle et en biop, évidemment, il faut pouvoir communiquer auprès de tout le monde pour que ça se sache, qu'on puisse susciter l'intérêt. Mais dès qu'on explique ce qu'on fait, les gens sont extrêmement emballés. Après, il faut mettre de l'argent sur la table. Ça, c'est comme tout, là, c'est ça. Et on en manque, concrètement.
Mais, c'est souvent le nerf de la guerre.
Exactement. Mais c'est ça, le simple fait de poursuivre et d'y croire et d'essayer de pérenniser la pratique. Puis ça, c'est à la sueur de notre front, là, vraiment. C'est la seule manière de changer les choses. Mais on s'en rend compte, juste un petit détail, mais par exemple, quand on fait les rencontres après l'audiodescription, on laisse la possibilité à le public large de rester avec nous pour assister à la discussion. Et ça, c'est le moment où, en fait, à ce moment-là, les personnes voyantes réalisent que dans la salle, il y avait d'autres personnes qui étaient avec elles, réalisent ce qui s'est passé. Et là, tout d'un coup, on perçoit dans l'attitude des gens une bascule. Il y a des micro-révolutions qui se passent. Et là, tout d'un coup, c'est... OK. Et là, c'est ça, en fait, le changement possible, c'est de voir les comportements qui changent, la pensée qui change. Et c'est tout petit, mais en réalité, c'est révolutionnaire. C'est des micro-révolutions individuelles qui se passent. Et ça, c'est ça qui va permettre de que les choses, à un moment donné, deviennent des usages réguliers, en fait. Mm-hmm. Voilà.
Et il n'y a pas beaucoup d'audio-descriptrices ou descripteurs. Est-ce que... comment on devient audio-descriptrice? Est-ce que vous donnez des cours?
Non, alors l'idée, ce serait... idéalement, on souhaiterait former quelques personnes l'année prochaine, mais c'est ça, c'est encore des histoires de financement, pour qu'on puisse être un peu plus nombreuses est nombreux et pouvoir fournir plus de services. En tout cas, l'idée, c'est que plus on sera nombreux, plus on va pouvoir fournir des services, plus éventuellement. C'est ça
oui,
qui va
ça
se
va
passer.
Faire boule
c'est
de
ça.
Neige.
C'est ça, mais c'est sûr qu'il va falloir former du monde. Je pourrais
oui, parce
pas...
que ça me semble un métier absolument passionnant.
Ouais.
Et dernière chose, est-ce que vous planchez sur quelque chose en particulier, un spectacle de danse pour l'automne? Je sais que vous partez bientôt en vacances, là, mais votre prochain projet, quel est-il?
Oui, alors c'est... Alors, je ne sais pas si je peux déjà annoncer le prochain projet.
C'est comme
mais
vous
en tout
voulez.
Cas, je suis déjà en train de préparer, oui, la prochaine audiodescription. Mais parce que la saison, l'audiodescription n'a pas été encore annoncée auprès de Densité. Donc, je pense que je ne vais pas... Je vais pas le... Je ne vais pas l'annoncer maintenant.
Ah, nous qui croyons avoir eu un scoop ce matin.
Mais en tout cas, c'est fin septembre, oui, la prochaine est fin septembre. Voilà.
Bon, alors on gardera
l'œil
ouvert.
Ouais, c'est ça.
Enora Rivière, chorégraphe, danseuse, écrivaine, audio-descriptif en chef et chercheuse chez Densité. J'ai dit audio-descriptif, c'est plutôt audio-descriptrice en chef et chercheuse chez Densité. Merci beaucoup de votre visite.
Merci infiniment.
Bonne journée.
Oui, merci.